C'est que la semaine, j'ai la tête qui tourne ce matin. J'ai les jambes en coton. Pardon? À cause que je n'étais pas assis à côté du pilote. On va aller ensemble dans un mot de prière. Non, vous avez une feuille qui est là de chaque côté. C'est juste une feuille recto verso. Je vous demanderai de la prendre. Pour être bien franc avec vous, j'ai fait ma lecture de préparation entre deux conférences cette semaine. Puis j'ai préparé ma feuille hier soir entre 10h et 11h30. Alors, ou quelque chose comme ça. Alors, ce matin, vous avez un bullet point en français, une liste, plutôt que d'avoir des paragraphes. Mais je ne pouvais pas me permettre de sauter le cours cette semaine, puisqu'il nous reste juste 3 dimanches sur ce cours-ci. On va aller ensemble dans un mot de prière, d'accord? Père éternel, ta parole est riche, profondément riche, Seigneur. Elle est belle et ce que tu nous apportes comme message, Seigneur, dans tes Écritures, c'est tellement merveilleux. Ce sont des choses qui nous dépassent souvent, Seigneur. Et ce matin, on aborde le sujet de l'adoration sous l'angle, Seigneur, des relations dans l'Église, de l'édification de l'Église. Et j'étais encore une fois émerveillé, Seigneur, de voir ton plan, tes desseins. J'aimerais te demander, Père, d'être avec moi ce matin, alors que je suis fatigué et peut-être pas entièrement présent d'esprit. Je te demande de m'aider à enseigner la parole avec vérité. Je te prie, Seigneur, de venir nous édifier, comme on veut le voir ensemble ce matin, puisque ton esprit est présent au milieu de nous d'une manière toute particulière, là où tes enfants se réunissent. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Alors, on est dans le cours « En esprit et en vérité », la leçon 7. Simplement pour se situer, nous sommes en train de faire un survol du sujet de l'adoration à l'intérieur de toutes les Écritures. Un survol très rapide. Maintenant, on est en train de porter notre attention davantage aux écrits de l'apôtre Paul. On a vu les Actes, puis là, on est dans les lettres de Paul. La semaine prochaine, on va aller ensemble dans l'Épître aux Hébreux. Et le dernier dimanche, on va aller voir l'adoration dans l'Apocalypse. D'accord? Je prends le temps de le mentionner qu'on est dans les lettres de Paul. Encore une fois, je sais que je l'ai déjà dit à quelques reprises, mais on ne parlera pas de l'adoration en général, on va parler de ce que Paul nous enseigne par rapport à l'adoration. Et ceux qui sont avec nous depuis le début du cours, vous serez probablement en mesure de suivre l'évolution, comment l'adoration se transforme, afin de comprendre comment est-ce que nous sommes censés le vivre comme chrétiens. Je vais y aller tout de suite avec une question. Quand vous pensez aux écrits de Paul, d'accord, je ne suis pas dans les Évangiles, je ne suis pas dans le livre des Actes, on n'est pas dans Hébreu, on n'est pas dans l'Apocalypse. Comment s'exprime l'adoration par les chrétiens dans les lettres de Paul? Est-ce que vous avez des passages qui vous viennent à l'esprit ou juste des choses, même si vous n'avez pas de référence? Comment Paul parle d'adoration? Asseyez-vous. Ce ne sera pas long, Camille. Bon, alors Romains 12, 1, qu'on a commencé à voir déjà dans les leçons 6 et 6A et 6B, cette idée de s'offrir, c'est ça que tu allais donner comme réponse? D'accord. Alors, cette idée qu'on doit offrir notre corps, et donc ce que ça veut dire, c'est que toute notre vie, tout ce qu'on va faire avec notre corps, avec notre vie, avec notre temps, avec notre énergie, devient lui-même un sacrifice de reconnaissance. D'accord? Ça, on l'a vu ensemble, vers les leçons 6A et 6B. Oui, Camille? OK. Alors, je vais prendre ce que tu viens de dire, là, puis je vais commencer à illustrer un point. Là. Si on doit offrir nos corps comme sacrifice vivant, le fait d'avoir de bons sentiments, des sentiments de joie, même à travers les épreuves, est-ce que ça ne ferait pas partie d'offrir notre corps en sacrifice? de toujours glorifier Dieu, quelles que soient les circonstances, se reposer en lui, chercher la paix, la joie en lui, malgré les circonstances, définitivement. Maintenant, si vous cherchez un langage spécifique à l'adoration, vous allez avoir de la difficulté à le trouver. Est-ce que vous voyez, là, Camille est allée chercher ça pour parler de l'adoration. C'est correct, c'est vrai. Essayez de penser maintenant du langage spécifique lié à l'adoration dans les lettres de Paul. OK, alors dans Éphésiens 1, il y a une prière extraordinaire. Hein? C'est Paul lui-même est en train de s'exclamer, il est en train d'exprimer toute la beauté. Donc on dirait que Paul, à travers ça, il est en train d'adorer, il est en train de proclamer la beauté de ce que Christ a fait. C'est vrai, maintenant lui, il ne dit pas « j'adore ». D'accord? Alors il est en train de le faire par quelque chose qu'il est en train de dire, mais il ne nous dit pas qu'il est en train de passer à l'adoration. Et vous avez raison, ça fait partie des choses qu'on va voir ce matin. Est-ce qu'il y a des textes auxquels vous pensez où Paul exhorte à adorer? D'accord. Donc, rendre grâce en toute chose. On est encore dans Philippiens, qui va exactement dans le même sens. On peut penser à s'exhorter les uns les autres par des hymnes, des psaumes, des cantiques. D'autres choses? Est-ce que vous voyez qu'au niveau du langage d'adoration, il y a quelque chose qui se passe avec Paul? C'est pas évident. On n'a pas cette idée de « venez adorer ». C'est important de l'observer. On va voir comment ça va évoluer. Mais nous, dans notre langage évangélique, on va dire aux chrétiens, on va dire à l'Église, on s'en vient adorer. Hein? On dit ça souvent, on s'en vient adorer. Ce n'est pas nécessairement faux, mais ce n'est pas exprimé comme ça par Paul. Et on a quelque chose à découvrir. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous adorez? OK. Alors, il parle des rassemblements.
J'allais juste dire que, tu sais, on a l'impression que Paul nous amène à voir Dieu et Jésus dans notre relation, mais à tout moment, il n'y a pas de départage.
Oui.
Ce que Paul fait, c'est nous exhorter à tout moment à rechercher et à vivre pour Dieu. Fait que c'est comme si son adoration était, tu sais, à chaque fois que tu respires,
oui.
C'est vraiment...
Oui. Alors ça. Alors on est. Et ça va dans le sens de ce qu'on a vu, l'idée d'offrir nos corps en sacrifice. D'accord? Chaque moment de notre vie devient un moment où on est en train de chercher à glorifier Dieu à travers toutes nos attitudes. Et donc, contrairement à l'Ancien Testament où il se rendait au temple, admettons, pour aller offrir un culte d'adoration, mais nous, on va le faire à tout moment. Juste un instant, Camille. Dans Éphésiens 4.
Donc, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. La vocation, peut-être justement de
sacrifice. C'est notre appel.
L'adorateur, tu sais, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant. Donc, c'est des choses très, très pratiques.
D'accord. Alors, Éphésiens 4, je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ça revient à Romains 12, 1. Ça parle d'une éthique de vie, d'accord, qui va dicter. Quelle sorte de comportement on va avoir? On est un peuple saint qui a été mis à part pour Dieu. Et donc ça va dicter comment on va se comporter à tout moment. Ça revient beaucoup à Romains 12, 1. D'accord? Maintenant, il y a quelque chose d'autre. C'est juste qu'il faut voir comment ça évolue et on va aller le voir ensemble. Oui? Alors, toute l'idée du service, ça revient encore un peu à Romains 12, 1. Maintenant, on va voir qu'il y a plus que ça. Il y a d'autres choses. On va le voir ensemble ce matin, mais c'est subtil un peu. Et bien le saisir, ça change notre manière de comprendre nos rassemblements. Ce à quoi je vais m'intéresser particulièrement ce matin, c'est est-ce qu'il y a une adoration particulière lorsque les chrétiens s'assemblent? Pardon? 1 Corinthiens 11. Qui... Oui, alors c'est vers ça qu'on va s'en aller. On va voir comment ça évolue dans cette direction-là. En quoi nous rassemblons-nous pour adorer? Lorsqu'on s'assemble, les chrétiens, bien sûr, on va chanter des louanges. Il y a de l'adoration à travers ça. En quoi est-ce que nous sommes en train d'adorer? Alors, on a vu ensemble dans les deux autres leçons, Romains 12, 1, qu'il y a cette idée que toute notre vie doit être un acte d'adoration. On consacre notre vie, notre corps, nos pensées, nos actions à Dieu. Et donc, nous allons vivre différemment des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et ça va devenir un acte d'adoration. Maintenant, lorsque l'Église se rassemble, est-ce qu'il y a une adoration particulière qui est là? Une seule fois, l'apôtre Paul va utiliser le terme qui était utilisé régulièrement dans l'Ancien Testament, l'idée de se prosterner. Sans lire mes notes, est-ce que vous savez c'est quand? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se rappeler la seule fois où Paul va parler de ça, tomber sur sa face, se prosterner, le mot grec auquel j'ai fait allusion, proskuneïn, à plusieurs reprises, sans regarder les notes. Est-ce que vous savez quand? Non. Ça aurait pu être ça? Tournez avec moi dans 1 Corinthiens 14, s'il vous plaît. Un Corinthiens 14, 24. Je vais commencer à 23 jusqu'à 25. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, d'accord, l'Église, c'est chacun des croyants, lorsque les croyants sont assemblés, si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils entrent de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Hein, si les gens commencent à parler dans une langue qu'ils ne connaissent pas, ils vont nous écouter, puis ils vont dire, mais ils sont fous ces gens-là. Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Alors les gens prononçaient des paroles de prophétie et ça dévoilait le cœur de l'individu. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, proskuneïne, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Et Paul est en train de dire, il va se convertir. D'accord? Celui qui tombe sur sa face et qui adore Dieu et qui dit « Dieu est ici » alors qu'on est en train de dire les louanges de Christ et qu'on est en train d'exhorter et qu'on est en train de s'édifier les uns les autres, c'est quelqu'un qui dont les yeux du cœur, le voile qu'il y avait sur le cœur a été retiré par l'Esprit, puis là, il découvre. S'il n'est pas converti, il n'est pas loin. D'accord? On arrive à la conversion de cet individu-là où il va devenir chrétien. Maintenant, ce sur quoi je veux attirer votre attention, parce que là, on a un acte d'adoration qui ressemble beaucoup à ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Si vous vous rappelez de quelques passages dans l'Ancien Testament où des gens arrivaient dans la présence de Dieu, puis spontanément, leur réflexe, c'est qu'ils tombaient sur leur face. Ils arrivaient devant Dieu, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement plus que nous, tellement saint, parfait, tombaient sur leur visage en adoration. Ça ressemble beaucoup à ça, là. D'accord? Mais il n'y a pas eu à ce moment-là d'apparition de Dieu. Il n'y a pas eu de grande lumière. On n'est pas sur la montagne avec Jésus. Puis, d'accord? Ce n'est pas la transfiguration. C'est à travers le rassemblement des croyants. Il tombe sur sa face. Pourquoi? Au verset 25. « Et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Et là, on retrouve un des thèmes de l'Ancien Testament, « Dieu au milieu de son peuple. » D'accord? Donc, sans dire qu'on est en train de parler d'adoration, on retrouve les idées, les thèmes, les concepts de l'adoration dans l'Ancien Testament quand le peuple de Dieu s'assemble pour adorer Dieu et que Dieu vient habiter au milieu des louanges de son peuple. Ce non-croyant entre dans l'Église et à travers le ministère de l'Église qui est en train de s'exercer là, il voit que Dieu est présent et il tombe sur sa face et dit « Dieu est ici ». Et là, on est en train de retrouver du langage puis des thèmes qui sont liés à l'adoration dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est clair pour vous, ça? J'ai l'impression de voir des points d'interrogation. Fait que dites-moi là, puis je vais essayer de clarifier ça. Oui, Patrick. Elle est hypothétique juste parce qu'il fait une opposition. Il fait l'opposition entre une assemblée qui va se mettre à parler en langue. Plus tard, il va dire, si vous parlez en langue, il faut qu'il y ait des interprètes. Donc, il dit, si vous parlez en langue, il va arriver là, puis il va dire, c'est des flyers. Mais si au lieu, vous êtes en train de prophétiser, ou dire des paroles d'exhortation, ou je pense qu'il aurait pu dire même à travers la prédication aussi, puisqu'ailleurs, on va trouver la même idée. Oh! Là, son intelligence est adressée. Mais non seulement ça, son cœur est dévoilé. Oui, si l'esprit le saisit à ce moment-là. D'accord? L'argument de Paul, c'est la clarté par rapport à ce qui n'est pas clair. Donc, le parler en langue, tu n'as pas d'interprète, puis par rapport à ce qui est clair, il dit, vous ne serez pas en train de faire une œuvre de proclamation si vous êtes en train de garder ça avec des langues, puis il n'y a pas d'interprète, puis tout ça. Désolé, mais vous n'êtes pas en train de proclamer rien. Là. C'est la confusion, c'est tout ce qui se passe. Mais là, ici, oups, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça répond-tu à ta question? Est-ce que c'est clair pour vous l'idée qu'on retrouve un thème lié à l'adoration dans l'Ancien Testament qui apparaît ici? Cette idée que Dieu habite au milieu de son peuple. Christine, c'est-tu clair? Oui. Ça va? D'accord? Maintenant, c'est important de le noter parce qu'on va voir comment est-ce que cette idée-là est en train d'évoluer dans la pensée de Paul. Qu'est-ce qui est en train de se transformer? Ça va nous amener à d'autres thèmes aussi, puis on va remettre tout ça ensemble. Pour tricher un peu puis aller chercher déjà le langage dont Paul va se servir plus loin, par l'édification, Dieu est présent au milieu de son peuple. Quand ce peuple-là est en train, là, ils étaient en train de prophétiser, donc ils étaient en train de s'exhorter mutuellement de différentes manières. Et Dieu est au milieu de son peuple au moment où eux autres sont en train d'édifier l'Église. On va aller voir ensemble Colossiens 3, 16. Et on va juste regarder quelques passages où on a cette... Oui, tournez dans Colossiens 3, 16, puis je vais répondre à votre question en même temps. C'est une très bonne question. Je vous avoue que j'ai de la difficulté à... La question qui a été posée, c'est quelle sorte de prophétie est question ici. La question qui va avec, évidemment, c'est est-ce qu'on peut encore prophétiser et toutes les questions qui sont rattachées à ça. Honnêtement, mes convictions ne sont pas claires encore sur ça, dans le sens que... d'après moi, ce sont des paroles d'exhortation. C'est des paroles, soit que je vais apporter un texte des Écritures, puis que Dieu voulait parler à quelqu'un parce que j'ai apporté un texte des Écritures, puis là, la personne, le Saint-Esprit, applique ce texte-là à ça, où je vais arriver avec une exhortation, et puis Dieu est en train de dévoiler quelque chose dans son cœur. J'ai tendance à croire que ça ressemble à ça. Est-ce que ça va aller jusqu'à annoncer quelque chose à venir? Ce n'est pas exclu ici. Donc, c'est pour ça que je vous avoue, ce n'est pas clair pour moi qu'est-ce qu'il y en a exactement. Camille, tu voulais faire un commentaire? Tu peux-tu parler plus fort, s'il te plaît?
Ça Dieu me mettait une inquiétude sur mon cœur pour lui. Et à ce moment-là, il m'a dit, bon, peut-être que je devrais en parler. Je viens de laisser mon travail. Je planifiais me suicider en fin de semaine. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas, ça peut être simplement ça. Je ne me prends pas pour un prophète.
Non, je comprends.
Dieu peut nous mettre comme ça sur le cœur des choses.
J'ai tendance à croire personnellement que ça ressemble à ça. D'accord? C'est-à-dire que ça va être poussé par l'esprit. J'ai la conviction qu'il y a quelque chose que je dois partager ou quelque chose que je dois dire. J'ai tendance à croire personnellement que ça ressemble à ça. Je suis mal à l'aise lorsqu'on veut résumer la prophétie à la prédication. Il y a ça dans la prophétie, mais ce n'est pas juste ça. En tout cas, mais là, on rentre dans les dons, puis les dons charismatiques. Ça me fera plaisir dans... Non, je sais. Non, mais je crois que Dieu peut donner quelque chose à n'importe qui, n'importe quand. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais on rentrerait dans tout le sujet des dons charismatiques. Ça me ferait plaisir de le discuter, sauf pas dans ce cours-là. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. on est dans un rassemblement de l'Église et il y a cette idée que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Et là, l'Église commence à s'édifier par des psaumes, par des cantiques, par des chants spirituels. Il y a cette idée que au milieu de l'Assemblée, la parole de Christ est présente et ça sert à notre édification. Et je pense que c'est le même thème que Dieu est au milieu de vous. D'accord? Jésus avait déjà abordé l'idée que lorsque ses disciples allaient s'assembler, il allait être présent au milieu d'eux d'une manière spéciale. C'est ce thème-là qu'on est en train de voir apparaître tranquillement ici. Tournez dans Éphésiens 5, 18 à 20. Oui. Non. C'était deux semaines. C'est fini, il n'y a plus de conflit dans l'Église. Tout est réglé. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas pensé à faire ça avant. Mais c'était deux dimanches. Si jamais vous voulez aller les écouter sur le site Internet, vous allez trouver les deux enregistrements, puis le document, le texte aussi que vous pouvez aller chercher. Éphésiens 5, 18 à 20. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » On n'est pas dans la louange individuelle à la maison. On est dans la vie de l'Église ici. On est en rapport les uns avec les autres, dans une soumission mutuelle les uns envers les autres. Et il y a cette idée d'être rempli de l'Esprit qui est présent, qui est là, à l'œuvre au milieu de nous. Et il s'exprime, il se manifeste d'une manière particulière à travers les chants, les psaumes, les hymnes, les cantiques, les actions de grâce qu'on est en train de rendre, la relation qu'on a au milieu de nous. Alors voyez-vous, dans 1 Corinthiens, un non-croyant vient au milieu du rassemblement des chrétiens et par les interactions, par le ministère qu'ils sont en train d'exercer les uns envers les autres, dans leur louange envers Dieu, mais les uns envers les autres aussi, ils observent que Dieu est présent au milieu du peuple de Dieu. Et ça, c'est un des thèmes qui apparaît dans les écrits de Paul, cette idée que lorsque le peuple de Dieu se rassemble pour exercer ses dons, ses ministères pour édifier, Dieu est particulièrement présent à ce moment-là. Et donc, une chose qu'on va essayer de développer un peu ce matin, c'est cette idée qu'on ne doit pas autant chercher à s'édifier individuellement, à grandir individuellement dans le Seigneur, autant qu'à édifier l'Église de Christ. C'est un bâtiment, c'est un temple qui est en train de se construire par nos relations les uns envers les autres. L'édification n'est pas un sujet individuel, c'est un sujet communautaire. C'est un objectif pour l'Église ensemble. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Ça va? Lorsque les chrétiens s'assemblent pour s'édifier, il en résulte une relation communautaire et spirituelle avec Dieu par son esprit, tout particulièrement à travers les ministères de parole, chant, exhortation, prédication, prophétie. Je fais une petite parenthèse avec la prochaine section. On voit, et tantôt, donc ça a été souligné, on voit la prière, la louange, les actions de grâce, non seulement dans le rassemblement, mais Paul le fait lui-même. Paul rend grâce, Paul loue Dieu pour l'œuvre qu'il est en train de faire. Donc, dans la vie de Paul, l'adoration, c'est sûr que la louange, la reconnaissance, ça fait partie de son adoration. Regardez 1 Corinthiens 1, 4 à 9. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira ainsi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est des actions de grâce pour ce que Dieu est en train de faire dans l'Église. Philippiens 1, 3 à 5. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Ce serait farfelu de ne pas considérer que ça fait partie de l'adoration de Paul. D'accord? Lorsque je vais dans la prière parce que je vois que Dieu est en train de faire une œuvre merveilleuse dans la vie de quelqu'un, lorsque j'étais à la conférence cette semaine à Together for the Gospel, une des dernières sessions, ils ont demandé à un jeune pasteur de venir témoigner. Et puis, ce jeune pasteur-là, juste avant les fêtes, a appris qu'il y avait une tumeur au cerveau et importante. Et puis, il était en avant de nous, il avait la tête rasée, puis il y avait une cicatrice qui faisait ça comme ça. Puis, il nous partageait tous les combats qu'il vit là-dedans, mais toute l'édification aussi, et toute la foi, puis comment est-ce qu'il traverse cette épreuve-là et sa famille. Puis, on l'écoutait, puis tu voyais à quel point l'Esprit était à l'œuvre dans son cœur puis dans sa vie. Qu'est-ce que ça faisait chez nous, dans nos cœurs? La louange, l'action de grâce. Donc, ce serait farfelu, lorsqu'on lit un texte comme celui de Paul, de dire que ça, ce n'est pas de l'adoration. Ça, c'est de l'adoration. Je suis en train de voir la gloire de Dieu se manifester dans son Église à travers les épreuves dans la vie d'un frère. Et je rends grâce à Dieu de voir à quel point l'Évangile peut transformer l'expérience qu'un individu va avoir dans l'épreuve. Je suis en train d'adorer. Donc, Paul adorait, c'est certain, à travers ses actions de grâce, à travers ses louanges. 2 Corinthiens 1, 3 à 11. Comme je vous ai dit, on se promène pas mal ce matin. Là, c'est tout simplement de la louange directement qu'on a. D'accord? L'action de grâce, dire merci à Dieu. La louange, c'est reconnaître la grandeur de Dieu, décrire la beauté de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Déjà, il est en train de louer. C'est le Dieu de toutes les consolations. Il est en train de décrire ce Dieu-là, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Paul est en louange ici, il est en train d'adorer littéralement comme les psalmistes le faisaient dans les psaumes dans l'Ancien Testament. Il est en train de louer Dieu avec sa bouche. Alors, c'est clair que dans les rassemblements, lorsque on chante des louanges, nous sommes en train d'adorer. Ça fait aucun doute. Lorsqu'on est chez nous aussi, puis qu'on est en train de chanter des louanges, on est en train de louer Dieu pour sa grandeur, parce qu'on a vu son intervention dans nos vies, parce qu'on exprime simplement notre foi dans sa provision qui va pourvoir, on est en train de louer Dieu à ce moment-là. Éphésiens 1, 3 à 5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénir Dieu, c'est ça. D'accord? Souvent, il y a des gens qui me posent la question. Bien, offrir des louanges à Dieu, c'est bénir le nom de Dieu. Des fois, on a de la difficulté parce qu'on se dit, ouais, mais moi, je n'ai pas de provision pour bénir. Parce que dans notre tête, hein, bénir, c'est faut être fort, grand puis gros pour pouvoir faire du bien. Bénir, c'est faire du bien. Non, je suis juste en train de dire que Dieu est merveilleux. Alors, béni soit Dieu, je suis en train de bénir Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Pensez à ça que vous faisiez allusion tout à l'heure. Oui. Oui, je comprends. C'est pour ça que je dis, dans votre esprit, Mme Paradis, ce que vous dites, c'est, moi, je n'ai pas les provisions, je n'ai pas la perfection pour pouvoir faire du bien à Dieu. C'est un langage pour exalter le nom de Dieu. C'est un langage pour dire, Seigneur, ce que je veux, c'est que tout soit en ta faveur, parce que c'est toi qui mérites toute chose. C'est ça, bénir Dieu. Et dans un sens, ça revient au même lorsque je vais dire, admettons, à Régent, que le Seigneur te bénisse. Oui, mais Oui, mais c'est un langage, comment je suis en train de dire ça? C'est pas comme une prière, c'est presque un commandement que je suis en train de donner.
J'aimerais plutôt dire, je te loue, Seigneur,
je comprends.
C'est
notre attitude envers lui, c'est notre attitude d'exaltation, c'est qu'on désire que son nom soit élevé, on désire que les anges l'honorent, on désire que toutes les dominations soient en train de glorifier son nom, on désire que son nom soit élevé non seulement dans les cieux, mais sur la terre. Et donc, je pourrais dire, t'es grand, mais lorsque je dis, Seigneur, que ton nom soit élevé dans les cieux et sur la terre, quel pouvoir j'ai pour que ça se fasse, ça? Moi, j'ai pas de pouvoir pour dire, Seigneur, que ton nom soit béni dans les cieux. C'est parce que les anges ne vont pas plus m'écouter, là. Moi, je n'ai pas de contact avec les anges pour dire, là, vous allez glorifier Dieu. Comprenez? Donc, quand je dis que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans les cieux, quel pouvoir j'ai pour le faire? Je suis en train d'exprimer le désir de mon cœur. C'est ça que je suis en train de faire. D'accord?
Oui,
ouais, mais je serais curieux, là, juste avec une petite concordance, je vous trouverais « Je te bénis ». Mais on trouverait assez vite, on trouverait assez facilement « Je te bénis », je ne suis pas mal sûr dans le langage. J'ai pas... Oui, ça fait l'argument de Louise qui dit « J'exprime un désir que son nom soit béni, mais moi, je ne peux pas te bénir ». Mais par exemple, non, c'est pas un bon exemple. Oui, c'est ça. Oui. Puis c'est un commandement que je me donne à moi-même, mon âme bénit l'Éternel. Oui, oui. C'est ça, je suis en train d'exprimer mon désir. On va continuer, d'accord? Ça va. Éphésiens 1, 3, 14. Donc, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénit de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Tout ce que Paul fait ici, c'est qu'il décrit ce que Dieu a fait en notre faveur et il exprime sa reconnaissance pour ça. D'accord? Il est en train d'adorer lorsqu'il est en train de faire ça. Il est en train d'exprimer des louanges. Ce n'est pas des actions de grâce ici, autant que des louanges au début qui après ça vont devenir des remerciements, des actions de grâce. Lorsque les chrétiens s'assemblent, il y a une présence particulière de Dieu qui se manifeste dans l'exercice des dons et des ministères dans l'Église, tant et si bien qu'un non-croyant peut venir entrer et dire « Mais qu'est-ce qui se passe ici? » Il y a quelque chose ici que je n'ai jamais vu ailleurs. Mark Dever nous partageait cette semaine, lui était à Capitol Hill, hein, il était à Washington, D.C. Alors c'est beaucoup, beaucoup de professionnels, oui, il y a des croyants, mais il y a beaucoup de gens qui, par leurs études, tout ça, sont venus à dire non, Dieu n'existe pas, puis rejeter l'existence de Dieu, tout ça. Et donc, il y a un psychologue qui est un enseignant en psychologie qui, je ne sais pas comment il a rencontré Mark, mais il a commencé à aller à l'église là-bas. Et puis, après un an de fréquentation de l'église, il est venu voir Mark, puis il a dit, il y a quelque chose qui se passe ici, là, dans votre communauté, là, que je n'ai jamais réussi à voir ou à produire avec toutes mes études en psychologie. C'est sûr qu'il y a quelque chose de spécial. Et cet homme-là s'est converti. Il a donné sa vie à Christ. Donc, ce qu'il a vu, c'est la présence de Dieu au milieu d'eux, quelque chose qui dépasse une simple analyse psychologique. D'accord? On a entendu un peu le même témoignage après le tremblement de terre en Haïti. Moi, je l'ai entendu d'un médecin ou d'un infirmier, un médecin qui intervenait dans les hôpitaux. Puis il dit, il y a quelque chose ici dans l'hôpital. Il y a des dames qui viennent la nuit pour chanter des louanges à tous les patients qui sont là puis qui sont en train de gémir. Puis il y a des gens comme ça qui viennent toutes les nuits chanter des louanges puis dire des prières pendant toute la nuit pour les accompagner. Puis ce qu'il exprimait, je ne me souviens plus c'était quoi sa phrase, mais il dit que ce serait assez pour devenir croyant. Il était troublé par ça. D'accord? Alors, ce qu'on voit avec Paul, c'est que lorsque l'Assemblée, lorsque l'Église se rassemble, exerce ses dons, s'édifie mutuellement, édifie l'Église, il y a une présence de Dieu qui est particulière, qui est là. On l'a vu dans le langage de la parole de Christ qui va habiter abondamment parmi nous lorsqu'on est en train de chanter, de s'entretenir par des cantiques, d'avoir des attitudes de soumission mutuelle les uns envers les autres. On vient de voir ensemble qu'une autre manière que Paul adore, où on voit le langage de l'adoration, c'est dans la louange, dans la reconnaissance, dans les actions de grâce. Ça, c'était juste une petite parenthèse parce que je voulais pas l'oublier ou pas le manquer. Maintenant, une autre manière où on voit le langage de l'adoration apparaître dans les enseignements de Paul, c'est avec toute l'idée du temple. Vous savez, lorsqu'on a commencé à parler du temple dans les évangiles, on a eu une longue discussion. Je me souviens, Paul disait, oui, mais le temple, c'est l'Église ou c'est nous, c'est notre corps. Maintenant, on était dans les évangiles, puis le temple, c'est Christ. D'accord? Maintenant, Christ est monté au ciel, il a envoyé son esprit. Oh, il y a quelque chose qui vient de changer ici. Là. D'accord? Alors, on a vu ensemble dans les évangiles que Christ a accompli parfaitement ce que le temple devait accomplir. Et donc, il va dire de lui-même, le temple de son corps, c'est lui qui vient accomplir parfaitement la présence de Dieu parmi les hommes. Maintenant, Christ est monté dans la gloire et il nous a envoyé son esprit. L'Église, temple du Saint-Esprit. Alors, chaque chrétien lui-même, le temple, et l'Église est le temple. On va commencer par les textes concernant les croyants. 1 Corinthiens 3:16. Je sais que là, je suis en train de revoir des choses que la majorité d'entre vous est assez familier, mais suivez-moi, là, puis on va aller vers ce thème-là de l'édification. Je vais prendre un petit peu moins de questions pour être sûr de couvrir ma matière. 1 Corinthiens 3:16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et là, vraiment, il est en train de parler des individus, du corps de chacun. Il est en train de dire l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, vous êtes le temple. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit et que dans l'Ancien Testament, l'adoration, le culte d'adoration se faisait au temple, mais ça colle pas mal avec Romains 12:1. Si j'offre mon corps, j'offre toute ma personne en sacrifice pour glorifier Dieu, le Saint-Esprit habite en moi, il y a une louange, il y a une adoration plutôt qui est en train de se vivre au quotidien dans tout ce que je vais faire. Vous me suivez là-dessus? Ça va? Donc, toutes mes journées, oui, deviennent des actes d'adoration, comme Suzy le mentionnait tout à l'heure, puisque l'Esprit-Saint habite en moi. Et c'est là, c'est au temple qu'on allait adorer Dieu, c'est au temple qu'on allait rencontrer Dieu. Si je me consacre et que je vis pour Dieu, je suis en train de vivre une adoration moi-même. 2 Corinthiens 6:16. On a déjà parlé de ce texte-là, d'accord? Il parle de l'association avec des non-croyants, du fait que je pourrais décider de me marier avec un non-croyant ou une non-croyante, ou bien m'associer, puis quelle relation il va y avoir. Et l'argument de Paul, c'est encore le fait qu'on est le temple du Saint-Esprit, verset 16. Quel rapport y a-t-il encore entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et à ce moment-là, il est en train de parler des individus, de chacun des individus, l'Esprit-Saint habitant en nous. D'accord? Maintenant, il va le dire aussi pour l'Église, l'ensemble de l'Église, dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, 21. Verset 20, on va commencer avec ça. Là, ce que je suis en train de vous suggérer ce matin, c'est que quand parle Paul de l'édification de l'Église, dans sa tête à lui, ça fait partie de cette idée d'adoration, d'offrir un culte à Dieu. Quand l'Église est en train de s'édifier, de se construire, le mot français rend très bien le mot grec qu'il y a là, d'accord? C'est le mot grec qu'on a pour édifier. C'est un terme utilisé dans la construction de maisons, de temples, de bâtisses. Et éventuellement, il a été pris au sens figuré avec des personnes. Donc, ça édifie, rend très, très bien ça. Édifier dans le sens de construire. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, on a vraiment tout le langage de la construction, là. Christ est la pierre angulaire. On dépose un fondement, c'est les apôtres qui ont reçu la révélation de l'Évangile, tout ça, c'est eux qui nous l'ont transmis, les apôtres et les prophètes. Là, on est construit sur. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alors là, s'il y a une coordination, c'est plutôt qu'on est chacun une pierre dans cet édifice-là. D'accord? On n'est plus en train de parler de mon corps comme le temple du Saint-Esprit, autant que l'Église elle-même comme cet édifice spirituel qui est construit, qui devient elle-même le temple de Dieu. Et là, on ne parle pas de bâtiment, là. On parle des individus, on parle d'ici. On est en train de dire que ce matin, parce qu'on est en train d'étudier le sujet de l'adoration et qu'on est en train de parler de la gloire de Dieu, plutôt que d'être couché dans mon lit en train de relaxer puis me préparer à, je ne sais pas, aller au hockey. Pas que c'est mal d'aller au hockey, mais de dire, d'avoir fait le sacrifice de venir ici pour pouvoir entendre parler des gloires de Dieu, grandir dans notre compréhension de Dieu, d'une manière particulière, l'Esprit-Saint est présent actuellement au milieu de nous. Maintenant, là, différemment que lorsque je suis à la maison, je suis le temple de Dieu et que je joue au Nintendo. Pourtant, l'Esprit-Saint habite en moi, là. Il ne m'a pas quitté lorsque je suis en train de jouer au Xbox avec mon fils. D'accord? Mais il est en train de dire qu'il y a quelque chose de particulier ici. Il y a cet édifice qu'on est en train de construire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Est-ce que vous voyez que l'édification ici, ce n'est pas un langage qui vise l'édification individuelle? Je suis allé à l'église ce matin et j'ai été édifié. Je pense qu'on pourrait le dire, mais ce n'est pas ça que Paul est en train de dire ici. Nous nous sommes assemblés en église ce matin et nous avons mieux compris qu'est-ce que c'était l'adoration et combien l'Esprit-Saint est particulièrement présent lorsque nous sommes assemblés, mais l'église a été édifiée. L'édifice est en train de se construire parce qu'on comprend de mieux en mieux c'est quoi l'adoration, par exemple. Ou tout à l'heure, Mme Paradis est venue me donner des nouvelles de quelqu'un de sa famille. Puis là, elle m'a donné des nouvelles. Puis j'ai dit, oui, il y a déjà quelqu'un qui va la contacter. Puis elle a été encouragée dans son cœur. L'édifice est édifié. D'accord? On est bien coordonnés. On est en train de vivre ensemble l'amour de Christ, prendre soin les uns des autres. On est en train de bâtir, d'élever cet édifice-là. Éphésiens, 1 Pierre 2, 4 à 8, qui est généralement le texte auquel on pense lorsqu'on aborde cette question-là. 1 Pierre 2, 4 à 8. Oui, on n'est plus dans les lettres de Paul, je m'excuse, tu as raison. Un bon point. Ah oui, elle est là. C'est parce qu'on ne couvre pas les petites épîtres, on va aller tout de suite dans Hébreux après. Excusez-moi, je suis dans 1 Pierre 4. Approchez-vous donc de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Pardon, car il est dit dans les Écritures, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. » Donc, il est en train de parler de ceux qui deviennent des pierres vivantes, parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, en son œuvre, va faire de moi une pierre spirituelle. Je vais pouvoir participer à cette construction-là, cet édifice qui est en train de s'élever. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alors, on n'est plus dans chacun, nous sommes le temple. Mais l'Église est une maison spirituelle que nous sommes en train de construire par notre croissance spirituelle, chacun d'entre nous, dans nos relations, dans nos rapports, dans l'affection, dans les pardons, dans la grâce qu'il y a de présent, dans le fait qu'on s'instruit les uns les autres. On est en train de bâtir cet édifice-là, qui devient lui-même, on est dans le langage de l'adoration, là. D'accord? Si Dieu est particulièrement présent quand l'Église est assemblée pour s'édifier, d'une manière spéciale, si la parole de Christ habite au milieu de nous, si ce que Paul nous dit et ce que Pierre nous dit, c'est ce qu'on doit chercher, c'est cette construction ensemble, non pas seulement individuelle, mais là, on est en train de parler d'un temple. Puis dans un temple, ce qu'on fait, c'est qu'on adore Dieu. Et donc, on est dans le langage de l'adoration. Quand l'Église se rassemble, il y a un acte d'adoration spécial qui est posé là. Dieu est glorifié, le nom de Dieu est élevé d'une manière spéciale quand l'Église est assemblée. Je dirais quand les petits groupes sont assemblés, là où deux ou trois sont assemblés, d'une manière spéciale, on est en train de glorifier Dieu. Oui. Oui. Je pense que c'est le même langage que Romains 12:1, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. D'accord? Je pense que c'est le langage de... Parce que Paul va dans le langage de l'adoration. Et donc, dans l'Ancien Testament, on offrait des victimes en sacrifice. Le sacrifice parfait a été accompli par Jésus-Christ. Il n'y a plus de sacrifice de sang qui va être versé. Christ l'a accompli. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est offrir nos vies. Et donc, on devient des victimes spirituelles dans le sens des victimes du sacrifice. On donne nos vies à la gloire de Dieu. Et ça permet d'édifier ce temple-là. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Oui, oh oui. C'est des pierres vivantes. Non, au contraire. Oh non, 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 au contraire, il dit justement, il a dit, il y a les pierres vivantes, puis il y a ceux qui n'ont pas cru. Il y a ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, et parce qu'ils ont cru, ils peuvent devenir une pierre qui va venir bâtir cet édifice. Et il y a ceux pour qui Jésus n'a pas été une pierre angulaire, il a été une pierre d'achoppement. Une occasion de chute parce qu'ils ont été, ils ont trouvé ça scandaleux que Dieu donne son fils, admettons, en sacrifice, ou que Dieu juge un jour les gens pour leur vie. Puis Jésus devient une pierre d'achoppement pour eux. Ceux-là ne deviendront jamais des pierres vivantes pour l'édifice. Pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme pierre angulaire, eux vont devenir une pierre dans cet édifice-là. Donc il fait il les départage, si vous continuez à lire le texte, là, les versets 6. 7 nous parle de ceux qui n'ont pas cru. Au verset 8, il dit « Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. » Et croire à la parole, c'est croire que Christ est le Messie, le Sauveur, la pierre angulaire. Oui, c'est vraiment le langage de Romains 12:1. La demeure de Dieu sur terre, selon le Nouveau Testament, c'est le peuple de Dieu lui-même plutôt qu'un édifice, c'est pas un bâtiment, c'est l'Église. Ainsi, les rassemblements des chrétiens deviennent une manifestation particulière de la présence de Dieu. Ce que ça permet de découvrir dans la théologie de Paul, lorsque je saisis ça, c'est que lorsque Paul parle d'édification, et là, il y a plusieurs autres passages qu'on pourrait aller voir ensemble, comment on s'édifie, comment on édifie l'Église, de quelle manière ça se fait, ça. Vous pouvez penser à Éphésiens 4, Dieu a donné les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs pour pouvoir instruire. C'est un édifice, il revient avec le langage de l'édifice, le corps qui est construit ensemble. On contribue à la formation de chacun, puis on en vient à vivre ensemble les principes de l'Évangile dans nos rapports les uns avec les autres. Ce que ça me permet de voir, c'est que lorsque Paul parle de l'édification de l'Église, dans son esprit à lui, il est en train de parler de là où Dieu va être glorifié, là où le nom de Dieu va être célébré. C'est au milieu de l'Église, lorsque l'Église est en train de s'édifier, que le nom de Dieu est glorifié, on est en train de parler d'adoration. C'est pas, dans son langage, c'est pas autant l'acte individuel d'aller puis de dire « Seigneur, je m'en viens t'adorer » ou comme dans l'Ancien Testament, offrir des sacrifices, c'est accompli ça. C'est pas tellement dans le fait que chez moi, chaque jour, je suis dans l'adoration puis je suis en train d'adorer. Là où d'une manière particulière, la gloire de Dieu est manifestée, c'est dans nos interactions les uns avec les autres, dans l'édification de l'Église qu'on est en train de faire ensemble. Alors que ce soit lorsqu'on est en train de servir, lorsqu'on est en train de sacrifier pour servir, lorsqu'on est assemblé, puis il y a quelqu'un qui ne va pas bien, puis une autre personne a un texte à lui partager, puis elle lui partage un texte. On le voit beaucoup dans le langage d'édification, dans les écrits de Paul. C'est beaucoup dans les rassemblements, dans 1 Corinthiens, par exemple, des paroles qu'on va donner. On est assemblé un petit groupe, puis il y a quelqu'un qui ne file pas, quelqu'un d'autre, un passage, il dit « Écoute, j'ai lu ça, je veux juste te lire ce passage-là, ça va tellement t'encourager, va lire ce passage-là. Quelqu'un d'autre ne file pas, on va prier pour cette personne-là, elle a besoin de nos prières pour qu'on l'accompagne. Quelqu'un d'autre arrive puis il dit, hier j'ai pu conduire un ami au Seigneur, puis on est bouleversé dans notre cœur, on se réjouit avec lui, on va dans la prière, on offre des louanges. On est en train d'édifier, on est en train de bâtir l'Église, qui est le temple de Dieu sur la terre. Ce n'est pas un édifice, mais on est dans l'adoration, là. On est dans le temple, on est dans le langage du temple. On est en train de poser des actes d'adoration qui glorifient Dieu. L'édification mutuelle des saints comme un acte d'adoration. Nous venons de voir que Dieu habite tout particulièrement au sein de son Église et tout spécialement dans son Église, quand son Église se réunit. Alors nous pouvons nous poser la question à savoir ce que l'Église fait spécifiquement quand elle s'assemble comme acte d'adoration. Et c'est clair que c'est tout le langage de la prière, des louanges, des exhortations, des paroles, des passages, des écritures, de la prédication, des enseignements. Tout ça dans la pensée de Paul fait partie de l'édification. Les dons, les enseignants, nos attitudes, comportements les uns à l'égard des autres font tous partie de l'adoration. Dans 1 Corinthiens 14, le but, c'est l'édification mutuelle plutôt que l'adoration individuelle. Et ça, c'est ce que je voulais essayer de vous apporter ce matin. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, Dieu veut voir à travers l'Église un projet qui ne s'est pas réalisé dans l'Ancien Testament. D'accord? Dans l'Ancien Testament, Dieu a racheté son peuple, il leur a donné la terre promise, et ce peuple-là devait manifester la gloire de Dieu d'une manière toute spéciale. Bon, Dieu est souverain, Dieu savait que ça ne s'accomplirait pas comme ça. Il a fait la démonstration à travers Israël que ça ne s'accomplissait pas. Mais dans l'Église, on est censé maintenant trouver ça. Puisqu'on n'est plus comme dans l'Ancien Testament avec quelques prêtres, quelques sacrificateurs qui ont toute la connexion avec Dieu, qui vont seuls dans la présence de Dieu, puis le souverain sacrificateur qui rentre une fois par année dans le lieu très saint. Non, on est dans le Nouveau Testament. Chacun d'entre nous, nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et lorsque nous nous assemblons, le Saint-Esprit est particulièrement à l'œuvre au milieu de nous. Ce que ça veut dire, c'est que dans la pensée de Paul, il y a certainement une place pour qu'on soit chacun des adorateurs chez nous. D'accord? Si je veux rendre ça très concret, quand je fais mes dévotions personnelles, quand je fais mon culte personnel, j'ouvre ma Bible, quand je me confie en Dieu au travail parce qu'il y a des pressions, puis je décide de faire confiance au Seigneur, j'ai des inquiétudes au niveau financier, puis je décide de faire confiance au Seigneur, je suis en train d'adorer Dieu. Ça ne fait aucun doute. D'une manière particulière dans la pensée de Paul, Dieu va être glorifié, Dieu va être élevé dans la communauté des croyants lorsqu'on est en train de s'édifier ensemble. Si je voulais tirer une conclusion, ça veut dire qu'un chrétien qui ne se réunit pas avec l'Église, un chrétien qui décide de grandir seul dans son coin, puis, tu sais, les institutions, il y a de l'hommerie là-dedans, 100% raison, il y a de l'hommerie. C'est sûr. Excusez. Le chrétien qui décide de ne pas s'assembler avec l'Église, non seulement il ne pourra pas grandir comme il devrait grandir, mais il ne pourra pas glorifier Dieu comme il est censé glorifier Dieu. Parce que dans sa vision à lui, la seule édification qu'il va chercher, c'est son édification individuelle et personnelle. Il n'est pas en train de construire l'Église. Il est en train de se construire lui, OK? Il y a une valeur dans ça. Il n'est pas en train de bâtir le temple de Dieu. Il n'est pas en train d'édifier le temple de Dieu. Il se voit lui-même comme un temple suffisant alors qu'il est censé être juste une des pierres. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de penser à une parole de Jésus qui va dans ce sens-là, qui dit qu'il y a quelque chose de spécial au milieu des croyants pour glorifier Dieu? Oui? Oui? Dans notre témoignage envers le monde? Oui, Camille? C'est ça. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'ils sauront que vous êtes mes disciples. Bien, individuellement, c'est à l'amour que vous avez pour vous-même et pour Dieu. Ça s'arrête là. Mais lorsque dans l'Église, pour faire un lien avec le cours qu'on a vu dans les deux dernières semaines, on rencontre des conflits, on a des accrochages et qu'on décide de vivre l'Évangile à travers ce conflit-là, de résoudre, d'aller pardonner, d'aller passer par-dessus, d'aller effacer, de rétablir la communion. Nous sommes en train d'édifier l'Église d'une manière toute particulière et Dieu est présent là, dans cette réunion des croyants, en sorte à ce que lorsqu'un non-croyant entre ici, il doit rencontrer une compagnie, une communauté qui est animée par l'Esprit, qui est conduite par l'Esprit, qui vit cet amour, qui se pardonne mutuellement les torts qu'on peut avoir les uns envers les autres, qui s'exhorte à marcher dans la sainteté, qui va chercher celui qui s'éloigne pour le ramener auprès du Seigneur parce que, oups, il est en train de se faire envelopper par le péché. Et lorsqu'il voit cette vie-là, là, cette communion-là, il est en train de voir la présence de Dieu de manière particulière. Oui, Patrick. Oui, c'est un bon commentaire. Vous comprenez le commentaire de Patrick? L'idée, c'est que je peux glorifier Dieu à mon travail. Puis les inconvertis autour de moi, les non-chrétiens autour de moi, je veux dire, après 10 ans où ils ont travaillé avec moi, ils peuvent dire, hey, ce gars-là, là, dans sa vie, là, Dieu est tellement présent. Il a toujours une bonne attitude, puis il a vécu des injustices à un moment donné, puis il a passé par-dessus, puis waouh, c'est vrai, c'est important, c'est majeur dans nos comportements. Dans la pensée de Paul, là où ça va atteindre son sommet, là, c'est dans la vie de l'Église. D'accord? C'est pas uniquement individuellement, c'est dans la vie de l'Église que ça va atteindre son sommet, parce que c'est là qu'on va pouvoir voir tous ces gestes de charité, de grâce, où on est en train d'élever le nom de Christ. Fait qu'au travail, mais évidemment, j'ai pas la latitude de chanter des louanges à Dieu toute la journée. Maintenant, ils vont me dire, garde, tais-toi, puis travaille. D'accord? Mais quand les gens viennent ici, puis ils nous entendent, dire pourquoi on est ensemble. C'est à cause de l'Évangile. On proclame l'Évangile, on chante l'Évangile, on prêche l'Évangile. Là, les gens comprennent, c'est Christ, c'est Jésus-Christ qui unit ce peuple-là ensemble. C'est pour ça qu'il y a cet amour-là, c'est pour ça qu'il y a cette patience, qu'il y a cette grâce, ces exhortations, ce désir de sainteté. Là, il y a un sens, il y a une intelligence donnée à tout ce qui est fait là, au milieu de son peuple. Je vais terminer avec ça. Ça veut dire que lorsque vous venez le dimanche matin, lorsque vous allez dans un petit groupe, on ne le fait pas uniquement pour dire, Seigneur, j'ai une semaine difficile, puis j'ai besoin de voir l'Église parce que j'ai besoin de me faire recrinquer, parce que c'est ça. Tu sais, j'ai besoin que tu me raplombes. C'est correct. C'est clair que c'est là pour ça aussi. Ça fait partie de l'édification. Si je suis en train de m'éloigner, puis on me ramène dans le bon chemin, ça fait partie de l'édification. Mais je m'en vais m'assembler avec les frères. Parce que lorsqu'on va chanter des louanges, lorsqu'on va prendre des nouvelles les uns des autres, lorsqu'on va dire, hey, je vais aller te voir cette semaine, j'ai vu que tu ne filais pas, on peut-tu aller prendre un café ensemble? Telle personne, moi, j'ai appris qu'il était malade, il était à l'hôpital, je pense que je vais aller le visiter cette semaine. T'aimerais-tu ça qu'on prenne du temps ensemble pour pouvoir étudier les Écritures? J'aimerais ça, on va se réunir quelques personnes ensemble. Quand on s'en vient s'assembler comme ça, on s'en vient vivre ensemble un acte d'adoration. Tout le monde ensemble. Et le Saint-Esprit est particulièrement présent au milieu de son peuple. Là où l'Évangile est clairement proclamé, la parole de Dieu est bien enseignée, on rend toute la gloire à Christ pour son œuvre et on vit cet amour-là ensemble, d'une manière particulière, il y a un temple là, qui est ici, qui n'est pas ça, qui est beaucoup plus beau que de la brique, que le plus beau des bâtiments qu'on pourrait faire. Pas besoin de peinture au plafond. D'accord? Il y a beaucoup plus de beauté qui est là dans nos relations les uns avec les autres. Et ça, c'est l'adoration, c'est le langage de l'adoration pour Paul. D'accord? On va terminer avec un mot de prière. Seigneur Jésus, tu as dit, je bâtirai mon Église. Cette Église est composée de pierres vivantes, de chacun des croyants pour qui tu n'es pas une pierre d'achoppement. Tu ne deviens pas une occasion de chute, mais au contraire, tu deviens une occasion de vie. Pour celui qui saisit son péché et la grâce qui lui est offerte en Jésus-Christ, Seigneur. Et chacune de ces pierres, chacune de ces personnes qui croient en toi, Jésus, deviennent pierres vivantes. Je te prie, Seigneur, de nous aider à comprendre l'importance de ces dons que nous exerçons les uns envers les autres, de ce service mutuel que nous avons les uns envers les autres, de ces cafés que nous allons prendre, de ces exhortations dans les petits groupes, de ces encouragements que nous nous donnons le dimanche matin, de ce souci de prier les uns pour les autres, de ces louanges que nous allons t'offrir tout à l'heure à travers les chants, Seigneur. Aide-nous à comprendre que c'est dans cette vie communautaire que ton nom est élevé comme nulle part ailleurs, Seigneur. Afin que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, et afin que ceux qui entrent au milieu de nous voient dans l'Église une communauté unique, spéciale, et entendent, Seigneur, que c'est à cause de toi, Jésus-Christ, que nous sommes spéciaux. Nous voulons te bénir, élever ton nom, te rendre grâce. C'est par toi seulement, Seigneur, que nous parvenons à nous aimer, à nous édifier ensemble pour former un seul temple, Seigneur, à ta gloire. Amen. Amen. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, nous sommes dans la lettre aux Hébreux.